Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Chargé par le gouvernement d'organiser les célébrations du centenaire de la séparation de l'Église et de l'État, l'Académie des sciences morales et politiques a déjà réuni deux colloques autour de cette fameuse loi de 1905. Un premier colloque au mois de février consacré à l'histoire de la séparation et un deuxième colloque les 25-27 avril dernier autour du thème « La République et les religions en régime de séparation, un siècle de pratiques institutionnelles ». À la rentrée prochaine, d'autres spécialistes se pencheront sur la laïcité dans son contexte international et enfin au mois de novembre prochain sur la laïcité en tant que valeur républicaine. Dans son livre « La République, les religions, l'espérance », Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à engager une réflexion sur cette laïcité contemporaine marquée par la question de l'islam. De son côté, Jean Sévilla, dans son livre « Quand les catholiques étaient hors la loi », engage une double réflexion. Une première réflexion sur le passé, sur l'histoire de cette laïcité à la française exaltée sous la Troisième République, et une seconde réflexion sur la place des valeurs chrétiennes dans notre société d'aujourd'hui. Jean Sévilla, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine, historien. Vous venez de publier, comme je viens de le dire, « Quand les catholiques étaient hors la loi » aux éditions Perrin. Vous êtes venu à l'émission Un jour dans l'histoire il y a un an environ pour évoquer la vie extraordinaire de Zita de Habsbourg, la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, mais vous êtes aussi connu par le grand public pour le travail réalisé contre ce que vous appelez le terrorisme intellectuel et l'historiquement correct. Alors Jean Sévilla, ce sera ma première question. Est-ce que votre livre « Quand les catholiques étaient hors la loi » se situe dans la lignée de ces deux ouvrages que je viens de citer, « Le terrorisme intellectuel et historiquement correct » ?
Il se situe en effet dans la droite lignée des précédents, puisque il y a aujourd'hui dans l'esprit public un lieu commun selon lequel la laïcité serait le synonyme de la neutralité de l'État vis-à-vis du fait religieux et la garantie de l'impartialité de l'État en matière religieuse. Or, moi qui ai étudié l'histoire et qui ai étudié cette partie de l'histoire, j'ai voulu rappeler que ce qu'on a appelé la laïcité à la française, en effet, a produit un apaisement entre l'Église et l'État après un certain nombre d'années, mais c'est après une plus longue période, qui est une période extrêmement conflictuelle, un affrontement très violent en guerre de 14. Or, moi, je crois que le devoir d'histoire doit consister à tout montrer, donc il faut raconter cette période.
Alors, dès les premières pages de votre ouvrage, vous mettez en exergue trois faits historiques révélant la violence de l'opposition entre l'Église d'une part et l'État d'autre part. Est-ce que cette crise franco-française peut se placer dans la tradition des crises de notre histoire de France, telles que les guerres de religion ou bien même la Révolution française ?
Du point de vue de la violence physique, le nombre de victimes, le type de violence a été moindre évidemment que pendant les guerres de religion ou pendant la Révolution française, qui ont été des vraies guerres civiles. Là, il y a une violence d'État qui a engendré une réaction de la population, notamment la crise des inventaires en 1906, qui s'est manifestée par la violence. Il y a une violence d'État qui s'est effectuée à l'encontre des congrégations. Ça n'a pas débouché sur un mouvement insurrectionnel. Les fusils ne sont pas sortis ou de manière accidentelle et périphérique. Maintenant, il y a eu une période quand même d'extrême tension politique, sociale. Cette période, à l'époque, si on reprend les textes d'époque, les documents d'époque, la presse de l'époque, les catholiques ont vécu cette offensive de l'État contre l'Église, l'ont vécu comme une persécution. Il y a donc bien eu une violence d'État parce que l'anticléricalisme a été un des ciments de la classe politique de la première, troisième République, celle dans entre la République conservatrice fondée après 1870 et entre 1914. En 1879, le pouvoir au sein du régime passe aux mains de la gauche anticléricale. MacMahon, président de la République, cède la place à Jules Grévy. Premier président de la République est un vrai républicain qui va nommer des gouvernements républicains qui vont être constitués de ministres républicains. Être républicain à l'époque, ça veut dire être de gauche, être anticlérical. Et en 1879, la majorité au Parlement comme au Sénat bascule à gauche, c'est-à-dire dans la gauche anticléricale. Ce qui veut dire que entre 1879 et 1914, aucun catholique en France n'a été soit chef de l'État, soit chef du gouvernement, soit ministre. Donc les catholiques français ont été, d'une certaine manière, en situation d'exclusion politique au sein de leur propre pays. Et exclusion politique qui s'est traduite par une multiplicité de lois laïcisatrices extrêmement agressives à l'encontre de l'Église.
Est-ce que toutes ces années, notamment les années, l'apogée du laïcisme 1901-1904 que vous montrez dans votre livre, n'était pas une crise de croissance, une sorte de passage obligé pour développer et asseoir la République ?
Je ne crois pas qu'il y ait de fatalité à ce que la République soit anticléricale. C'était pas d'ailleurs le vœu du pape Léon XIII qui appelait de ses vœux au ralliement à la République française. Son successeur, le pape Pie X, a rappelé qu'en soi, la République était un régime comme un autre. Il y a une légitimité républicaine. Il y a une légitimité républicaine comme il peut y avoir une légitimité monarchique ou impériale. La République est un régime parmi d'autres. Il se trouve que au XIXe siècle, l'idée républicaine en France n'est pas idéologiquement neutre. Elle est héritière de la pensée révolutionnaire en assumant toute la révolution, c'est-à-dire en assumant, y compris à l'époque, en assumant l'antichristianisme de la révolution, en assumant la terreur. Et il y a donc une violence fondatrice, une violence incluse dans l'idée républicaine qui fait que l'idée républicaine, en France, n'est pas un objet neutre. Des républiques chrétiennes, je dirais, il y en a eu dans l'histoire et il y aurait pu en avoir. En France, au XIXe siècle, l'idée républicaine est violemment tournée contre l'Église et contre, je dirais, une partie de l'histoire de France. La République s'est construite en France au terme d'une fracture, la fracture de la Révolution, et donc il y a là un pan de mémoire nationale qui doit dire le citoyen français, qui est un être rationnel, qui ne se réfère à aucune transcendance, qui a fait du passé table rase, du passé entier, celui qui est antérieur à la coupure de la Révolution française. Il y a donc une volonté vraiment, vraiment de, on peut dire idéologique. Oui, il s'agit de fonder un citoyen qui est animé d'une pensée positive, récusant donc la religion traditionnelle des Français, et qui était non seulement traditionnelle, mais qui était là, sociologiquement la religion majoritaire en France. Je rappelle qu'en 1872, c'est le dernier recensement qui a eu lieu en France où les Français ont dû répondre à la question de leur affiliation religieuse. Et au recensement de 1872, 95,5% de la population française se reconnaît comme baptisée catholique dans un pays de 38 millions d'habitants. 95,5% de la population. Donc l'anticléricalisme va s'en prendre à la religion, qui est la religion de l'immense majorité des Français.
Vous n'hésitez pas à utiliser le terme de révolution.
Oui, il y a une révolution laïque, je pense. La formule n'est pas de moi, mais il y a une révolution laïque en ce sens que, alors que l'Église au XIXe siècle font scientiste comme quoi les progrès de la raison, de la science, elles vont dissiper la religion qui serait un héritage du passé.
Oui, nous sommes en plein positivisme, en tous les cas le développement du positivisme, et l'Église apparaît comme elle fait appel au surnaturel, eh bien elle apparaît décalée par rapport à ce mouvement.
Exactement. Et donc cette situation officielle de l'Église, sous le Second Empire, les rapports entre le régime et l'Église sont bons, même s'il y a des variations qui tiennent à la politique italienne de Napoléon III. Mais donc, il va faire que l'opposition à Napoléon III, qui est par définition républicaine, les légitimistes, les royalistes sont un petit peu se tiennent sur le côté, eh bien, va devenir anticlérical. Et donc, sous Napoléon III, se fait une identification qui est anticlérique. qui est républicain est anticlérical et qui est anticlérical est républicain. Et donc cette identification s'opère à cette époque et cette même classe politique républicaine anticléricale va accéder au pouvoir sous la Troisième République un peu plus tard, comme je le disais, à partir de 1879. Et là, elle a une revanche à prendre sur une situation qu'il estime avoir été injuste, d'accord de statut officiel de l'Église, et comme il y a une volonté chez les plus extrêmes qui est vraiment déchristianisatrice, qui est affichée, eh bien le choc est inévitable.
Mais cette Église est forte.
Cette Église est forte. Le Concordat a permis un relèvement du clergé séculier. Il y a aussi, et pour le coup, j'ai parlé des congrégations tout à l'heure, les congrégations, le 19e siècle est un grand siècle, c'est un siècle héritier de la Révolution, le siècle scientiste, le siècle positiviste, c'est aussi un siècle de foi et de foi populaire. C'est le siècle, on a le siècle de Pasteur, mais on a aussi le siècle du curé d'Ars. Et donc, ce catholicisme populaire va susciter un nombre de vocations extrêmement importantes qui vont se nourrir une expansion considérable des congrégations françaises, congrégations qui ne sont pas concernées, rappelons-le, par le Concordat. Hein. Les congrégations ne dépendent que de Rome et donc n'ont rien à voir avec le Concordat. Et il y a en 1880 à peu près, il y a en France 30 000 moines ou religieux et 130 000 religieuses, plus qu'avant 1789. Donc une expansion tout à fait considérable des congrégations qui va se porter sur, comme je le disais tout à l'heure, sur l'enseignement dans le monde de la santé. Les congrégations vont accompagner au fur et à mesure du développement du siècle l'effort missionnaire à travers l'entreprise coloniale de la Troisième République. D'ailleurs, assez paradoxalement, les anticléricaux vont se servir des congrégations et les seules congrégations qu'ils épargneront, ce seront les congrégations missionnaires parce que la Troisième République n'a pas assez de personnel laïque pour faire son travail outre-mer et a donc besoin des...
Lance comme... comme d'autres disaient qu'on ne doit pas avoir le monopole du cœur. Le programme républicain se met en œuvre dans les années 1880. Est-ce qu'on peut parler d'un plan défini ? Parce qu'on sent, à vous lire et en regardant l'histoire, que ces républicains sont malgré tout divisés.
Ils sont divisés entre eux, bien entendu. Il y a les républicains les plus classiques qu'on appelle d'abord et puis qui vont se diviser entre. Il y a un programme républicain qui est défini par Gambetta d'ailleurs. C'est sous le Second Empire.
Le programme de Belleville.
Voilà. Et quand une fois que les vrais républicains accèdent au pouvoir en 1879, et ils vont se diviser en deux groupes, entre ceux qui veulent l'application immédiate du programme républicain dans son intégralité. On va les appeler les radicaux, et puis ceux qui pensent qu'il faut composer avec la réalité, louvoyer, manœuvrer, ce sont ceux qu'on appelle les opportunistes, qu'on appellera ensuite les progressistes. Il y a ces deux familles-là au sein du monde républicain. Et puis, au fur et à mesure du temps, va apparaître une troisième famille, qui est la famille socialiste, qui est encore plus à gauche, je dirais, que les radicaux. Mais ces trois familles vont se trouver fédérées par l'anticléricalisme, qui va être... un ciment politique des gauches françaises jusqu'à la guerre de 1914. Ce qui fait que, ce qui incite les catholiques à reconnaître la République, à entrer dans le système pour y faire voter des bonnes lois. Ce qui va relancer l'affrontement très vif survient à la fin des années 1890, c'est l'affaire Dreyfus qui va accélérer le processus.
Je reçois Jean Sévilla, auteur du livre « Quand les catholiques étaient hors la loi » et nous parlons en fait de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Nous nous retrouvons après une seconde pause.
Canal Académie.
Thank you.
Vous écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dicasse.
Un jour dans l'histoire reçoit comme invité aujourd'hui Jean Sévilla. Jean Sévilla, vous êtes historien, vous avez écrit de nombreux ouvrages aux éditions Perrin, Le terrorisme intellectuel, Historiquement correct, et vous venez de publier chez le même éditeur Quand les catholiques étaient hors la loi. Nous évoquons le sort des catholiques entre cette période 1879-1906, 1907. Vous avez montré le développement en fait du républicanisme à la fin du 19e siècle. Et un des points qui marque votre livre, c'est que vous développez toute une partie sur le soutien d'une partie de la population à cette politique anticléricale. Parce que les socialistes, les républicains, sont des gens qui sont élus. Alors comment expliquer ce soutien? Quelles sont les raisons de ce soutien?
Alors pour minorer ce soutien, mais que je ne nie pas et que je vais expliquer, du moins pour replacer dans son contexte, où d'abord il faut rappeler qu'à l'époque les femmes ne votent pas. Les femmes votent en France, rappelons-le, depuis 1946. Donc et les anticléricaux étaient, il y a eu des propositions de loi émises par certains députés de la droite catholique, parfois, mais beaucoup plus rarement, de la gauche. Alors, tout ça, c'est l'histoire de la progression de l'idée républicaine. Je pense que la droite de l'époque, sans doute, n'avait pas mesuré et n'a pas su intégrer dans son propre discours la force que pouvait avoir l'idéal républicain en tant que projet de promotion sociale, projet d'égalité de tous devant la loi, devant la chance, devant la fortune, etc. Il y avait quelque chose d'extrêmement séduisant que la droite de l'époque sans doute n'a toujours pas compris. Dans les années 1880-90, on est encore dans une société qui est très extrêmement tributaire d'élites sociales qui sont des héritaires. Hein. On est dans une époque où la vieille aristocratie ou la vieille bourgeoisie les dynasties bourgeoises ont encore un grand pouvoir, et ce monde conservateur qui a des grandes vertus a aussi sûrement le défaut de ne pas voir que son discours ne passe pas toujours auprès de certaines couches populaires. À un moment où on lance l'idée d'égalité, on est dans une époque de promotion de l'individu, qui c'est une idée qui commence à apparaître, et bien le discours républicain au fond est en phase avec cette idée, tandis que les élites conservatrices qui ont une vision très héréditaire, à savoir que l'Église défendait cette idée qu'il y a un lien entre, il doit avoir un lien entre la foi et la société, qu'il y a des normes supérieures aux idées personnelles d'un individu. Il faudrait aussi rappeler que les républicains qui défendaient la liberté de conscience ont eu bien peu de respect pour la liberté de conscience des catholiques eux-mêmes, et notamment des religieux catholiques. De ce point de vue-là, on est à s'il y a un match, je dirais qu'il y a des torts partout. Cette liberté de conscience, elle peut être interprétée de manière très très aléatoire et à sens du côté républicain. La liberté de conscience des religieux qui ont été expulsés n'a sûrement pas été respectée.
Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises Léon XIII, et vous montrez bien dans votre livre qu'il s'agit de distinguer la reconnaissance de la République d'une part et la législation d'autre part. En fait, le ralliement est un ralliement au régime, mais pas un ralliement systématique à ses lois.
Oui, et ralliement au régime, il faudrait relativiser, parce que si vous prenez les textes, la République selon Léon XIII, c'est une République, et Léon XIII reconnaît la République, mais qu'on condamne néanmoins les principes de 1789. Donc l'Église du XIXe siècle est une Église
qui est plus proche d'Aristote que de Rousseau.
Que de Rousseau, exactement, qui ne s'est pas rallié à la philosophie née du choc révolutionnaire. Simplement, dans l'esprit de Léon XIII, au fond, il fallait que les catholiques jouent le jeu du régime, c'est-à-dire participent aux élections, de façon à peser au Parlement pour y faire voter de bonnes lois. Léon XIII avait l'espoir et l'idée que les catholiques pourraient constituer un grand parti au Parlement qui deviendrait majoritaire. Ce vœu s'est avéré vain parce que les catholiques se sont divisés à partir du ralliement. Certains, beaucoup sont restés soit monarchistes et certains fidèles au souvenir impérial aussi. Le souvenir des persécutions révolutionnaires était encore extrêmement vif. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, ça n'avait guère qu'un siècle. Ça veut dire que les personnes âgées, au moment du ralliement, se rappellent que leurs propres parents, enfants, ont vécu la révolution. Et donc, le souvenir des persécutions révolutionnaires est très vif. Et donc, là, il y a eu les persécutions de la Commune en 1871, le Monseigneur d'Arbois, archevêque de Paris, qui a été fusillé, une trentaine de religieux fusillés par les communards. Depuis 15 ans, une dizaine d'années, les catholiques français subissaient une politique anticléricale très vive. Donc la méfiance des catholiques français à l'égard de la républicaine, à de l'idée républicaine, en 1892, s'explique. Je ne la justifie pas, je la constate comme un historien, je comprends. Et donc, le ralliement va échouer, il va partiellement échouer, en tout cas, il va diviser les catholiques, puisqu'il y aura, après le ralliement, des catholiques ralliés et des catholiques non ralliés qui resteront conservateurs, monarchistes ou bonapartistes. Il faut noter que les catholiques ralliés, ceux qui se sont ralliés à la République, eh bien, ont subi de la part des anticléricaux absolument la même vindicte que les catholiques non ralliés, ce qui prouve bien que pour les anticléricaux, l'enjeu n'était pas tant la République en soi que le rapport des Français vis-à-vis de l'Église.
Alors, le temps avance malheureusement, Jean Sévillat. Il y a de nombreuses anecdotes et vraiment, j'incite nos auditeurs à se reporter à votre livre. Vous expliquez très bien que la gratuité et le caractère obligatoire de l'école n'apparaît pas avec Jules Ferry, mais existe bien depuis au moins deux, si ce n'est trois siècles. Il y a aussi l'anecdote de la fille de Jaurès qui fait sa communion privée et que Jaurès doit justifier devant ses amis républicains. Quel bilan, d'un point de vue plus général, quel bilan peut-on faire de cette loi de séparation en 1914, donc qui constitue une première étape vers la réconciliation ?
En 1914, on n'en est pas à la réconciliation. Hein. Je veux dire, avant la guerre de 14, jusqu'à la guerre de 14, même après 1905, on reste dans un climat anticlérical extrêmement vif. Ce sont les mêmes partis qui exercent le pouvoir. Il y a une guérilla que mènent les maires, notamment dans les communes, pour vérifier à l'application stricte de la loi 1905, puisque les maires ont de grands pouvoirs, ils sont les propriétaires des églises. Hein. Et donc on est dans ce climat. L'apaisement, il viendra beaucoup plus tard. Il va venir après la guerre de 14. La guerre de 14 a mis fin...
Cette volonté de réconciliation, d'union des Français après la Première Guerre.
Oui. C'est psychologique, c'est lié au fait que la guerre a été un grand mélangeur de couches sociales, d'hommes et de tous les milieux. Et au fond, dans les tranchées, ont combattu ensemble les enfants de l'école laïque et les enfants de l'école des curés. Donc,
alors, à un moment, justement, vous évoquez, vous mettez en balance le dilemme des catholiques, vous montrez le dilemme des catholiques qui sont, bien avant la Première Guerre, pris entre la paralysie de l'État, cette longue période qui s'étend de 1880 à 1914 et davantage encore, puisque nous allons voir après une dernière pause que cette question de la laïcité se pose encore de nos jours. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves. Plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous entamons la dernière partie de notre émission. Je reçois Jean Sévillat, journaliste au Figaro Magazine et auteur du livre « Quand les catholiques étaient hors la loi » paru aux éditions Perrin. Jean Sévillat, le début de votre livre et le dernier chapitre sont des chapitres à part. Il s'intitule, votre dernier chapitre en tous les cas s'intitule « Quand la laïcité ne suffira plus à dire qui nous sommes ». C'est un chapitre plus engagé. Est-ce que la loi de 1905, Jean Sévilla, est une loi adaptée à notre époque contemporaine, d'automne de 2003? Vous situez dans la même lignée?
Je partage cette inquiétude qui est celle d'Alain Besançon. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je ne suis pas un islamologue. Maintenant, je partage cette inquiétude. Je crois que toute société ne peut fonctionner sur la durée que si elle a des valeurs communes. Or, l'islam a, une fois encore, une anthropologie qui n'est pas celle qui a été forgée par le judaïsme et le christianisme, par la Bible. Nous avons là un problème qui est assez préoccupant à partir du moment où la minorité musulmane est numériquement croissante. Je crois tout à fait qu'on peut être un bon citoyen français tout en appartenant, en étant musulman. Je n'ai aucun mépris ni pour les musulmans ni pour l'islam, qui est une grande religion.
Vous rappelez d'ailleurs qu'il y a eu des liens entre l'islam et la France.
Bien évidemment, nous avons une histoire commune, une proximité commune fournie par l'histoire et la géographie. Maintenant, l'islam, quand il est sur son propre territoire historique et chez lui, je pense que nous gagnerions à affirmer que sur notre territoire historique à nous, eh bien, une société qui a été forgée par les valeurs de la Bible est chez elle. C'est ce que voulait dire le général de Gaulle quand il disait « la République est laïque, la France est chrétienne ». Je crois que pour dialoguer avec l'autre, pour avoir un rapport de différence, mais un rapport respectueux, eh bien, il faut savoir ce que l'on est soi-même. Et donc, la meilleure façon d'être respecté et de respecter les autres, eh bien, c'est d'avoir idée de sa propre identité.
Justement, vous prenez un retour à l'identité chrétienne?
À titre personnel, tout à fait. Et je crois que nous mesurons tous les jours dans notre société ce que nous devons au christianisme et ce que nous devons à la perte du christianisme, pour être précis, puisque notre société est malheureusement très, très déchristianisée. Nos rapports, notre conception de la justice, notre conception de l'homme, des rapports entre l'homme et la femme, notre conception du pardon, notre conception du devoir envers les plus faibles, du respect que l'on doit aux enfants, aux petits, aux malades, ce sont des idées qui ont été imprégnées et forgées par le christianisme. Mais si nous perdons le fil du christianisme, nous retournons à une forme de société où vont prédominer les rapports de violence, les rapports de force, qui peuvent être financiers, qui peuvent être physiques, mais on est dans une société qui connaît un processus, à mon avis, de régression vers une certaine forme de barbarie qui n'est pas sans m'inquiéter. Alors...
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.